Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. Nous parlerons aujourd'hui de la motivation. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est fait d'incertitudes, de doutes, de remises en question, et s'adapter à ce monde en mutation permanente n'est pas chose facile. Nos perceptions, nos émotions, nos actions sont gouvernées par notre cerveau, et comme nous l'expliquera notre invité, notre motivation à penser, à choisir, à agir, nous viennent de notre cerveau. Mais soyons attentifs, il peut y avoir une perte de lien entre désir et action. Je reçois pour vous Michel Habib. Il y a plusieurs voies pour aborder le problème de la motivation, parmi lesquelles la philosophie, la psychologie et la neurologie. Michel Habib nous fera découvrir l'éclairage de la neurologie à travers une expérience qu'il a vécue, une recherche, un cheminement dont il va nous parler. Michel Habib est neurologue, praticien hospitalier de l'assistance publique de Marseille, chercheur associé et enseignant à la faculté de médecine. Michel Habib est déjà venu plusieurs fois à notre micro, c'était le 8 février 2012 pour la dyslexie en question, le 18 avril 2012 pour intelligence et précocité, et puis le 14 novembre 2012 toujours pour neurones miroirs, musique et danse, l'exemple du tango. Des émissions que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site Judaïsme pluriel. Bonsoir Michel et merci d'être avec nous.
Bonsoir Roland.
Alors j'avais préparé pour notre réunion de préparation des documents sur internet me permettant de te poser des questions. Mais tu m'as fait découvrir ton travail de recherche, alors j'ai tout abandonné et nous allons t'écouter parce que je crois que c'est tellement plus vivant et plus intéressant. Alors, ça commence en 1988, hein, je crois. Tu étais jeune neurologue à l'hôpital de la Timone, chez les adultes. Et qu'est-ce qu'on savait à l'époque sur le sujet? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait des aires dans le cerveau correspondant à des fonctions, telles que par exemple la parole et l'aire de Broca. Mais sur la motivation, tu m'as dit pas grand-chose. Alors là, tu t'es mis à étudier, et puis alors là, je vais te donner la parole.
Oui, c'était une époque différente, il y a bientôt 30 ans. J'étais jeune assistant dans le service de neurologie, plein d'enthousiasme et de curiosité. Mmh. Et finalement, notre pain quotidien, c'était d'examiner des patients neurologiques qui avaient eu la veille ou la semaine précédente des accidents vasculaires, des attaques cérébrales, hein, mm-hmm. et qui avaient perdu une des fonctions de leur esprit. Mm-hmm. La plus courante étant le langage, ce qu'on appelle les aphasiques. Vous oui. savez, quand il y a une lésion qui détruit l'hémisphère gauche du cerveau, on perd la parole, on peut plus parler comme on parlait avant, on appelle ça de l'aphasie. Mais plein d'autres type de lésion au cerveau et qui entraîne tout autant de connaissances finalement qui nous apprennent comment notre cerveau est construit oui. et à quoi chaque partie sert, voilà. Mmh. Et à cette époque-là, on parlait surtout voilà du langage, de la mémoire, de la reconnaissance visuelle. Par exemple, on a peu de temps avant, il avait été décrit quelque chose d'assez extraordinaire, qu'une petite lésion de l'hémisphère droit du cerveau faisait perdre la capacité à reconnaître les visages mmh. connus, hein, des personnes qui ne peuvent plus se reconnaître dans un miroir, par exemple. C'est mmh. assez effrayant dans un sens, mais voilà, c'est ce qui attise la curiosité du jeune neurologue que j'étais à l'époque. Voilà. Et parmi les patients qu'on avait, on avait, avec deux de mes collègues, été interloqués par les manifestations de trois, chacun un de nos patients, et qu'on a finalement réuni en un article scientifique qu'on a présenté à la Société de Neurologie à Paris, et qui a eu un certain succès, parce que ce qu'on présentait là, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et d'assez étonnant.
Alors, c'était quoi ?
Alors, c'était des personnes, comme vous et moi, qui, à la suite de cet accident, d'un problème vasculaire, avaient perdu une fonction que l'on ne connaissait pas jusqu'alors, qui s'est avérée être, au final, la motivation. Et alors, ça se présentait d'une façon assez impressionnante, des personnes qui sont tout à fait capables de raisonner, de parler, d'agir. Donc pas du tout des déments, pas du tout des aphasiques comme on parle, personnes qui parlaient comme vous et moi. Seulement, ils ne faisaient rien et ils ne disaient rien spontanément. Pour obtenir un mot ou pour obtenir un acte, il fallait le leur demander. D'eux-mêmes, ils ne faisaient rien. Et ça, c'était vraiment très très impressionnant.
Par contre, si on leur demandait, ils répondaient normalement.
Tout à fait normalement, et ils agissaient normalement, mais d'eux-mêmes, s'ils pouvaient rester une journée entière assis sur un fauteuil, à ne rien faire, ne rien dire, ne rien demander, même pas à manger. Et finalement, c'était ça qui nous avait vraiment étonnés en nous disant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau pour entraîner une telle anomalie.
M'avais même dit, pardon, je te coupe, mais ça m'avait frappé, que si une mouche venait sur leur nez, bah, il la laissait.
Voilà, alors ça c'était, quand on est allé un peu plus loin dans la compréhension de ça, on s'est aperçu qu'il y avait trois éléments dans ce syndrome, parce que ça c'était devenu un syndrome, c'est le moment où on avait trois patients qui avaient la même chose. D'une part, cette absence d'action, c'est ce qu'on peut appeler une inertie totale, au point de vue de la motricité de l'action. D'autre part, une sorte d'indifférence affective, justement, cet exemple de la mouche que je t'avais donné. C'est-à-dire que rien ne les agace plus, ils sont plus capables d'être énervés par quoi que ce soit. Ils sont plutôt indifférents. Et à cet égard, on s'est même demandé s'ils n'étaient pas dépressifs. Quand on fait rien et qu'on est dans un état comme ça, un peu de passivité totale, on pourrait se demander s'ils étaient dépressifs. Alors on les interroge et ils nous disent non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout triste. Ça va bien. Voilà, pas de dépression, pas de tristesse.
Dépression. On était sûr que c'était pas une dépression.
Voilà. Et le troisième élément, c'était encore plus troublant. Quand on leur disait, bon, quand vous restez une journée entière comme ça, assis dans votre fauteuil, sans bouger, sans rien faire, sans rien demander, à quoi pensez-vous, monsieur ? C'était trois hommes. À quoi pensez-vous, monsieur ? Et la réponse uniforme, unique, de ces trois personnes, c'était à rien.
Voilà. Le vide.
Ça s'appelle un vide mental. On appelait ça ensuite un vide mental. C'est-à-dire que, finalement, on avait trois éléments combinés dans un syndrome, qui nous laisse penser que la lésion qui avait été à l'origine de ça avait dû toucher des zones cérébrales critiques pour ces trois éléments-là. L'action, l'affectivité et la pensée. Mais la pensée sous une forme très particulière. C'est-à-dire ne pas du tout penser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser. Ça veut dire qu'on n'a plus le moteur interne qui nous amène à penser spontanément. Une perte de la pensée spontanée, en quelque sorte.
Mais quand ils disent, quand ces gens disaient « je ne pense à rien », j'ai un petit peu de mal à comprendre, parce qu'on a toujours conscience, on garde toujours une certaine conscience de soi et de son entourage. Alors « penser à rien », penser à rien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je pense tout le temps à quelque chose.
On a des exemples de ça, mais les personnes qui font des méditations, Ils apprennent, après des années d'exercice, à ne plus penser, supprimer la pensée. C'est un bon modèle, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout, qui doit s'apprendre si on veut y arriver, et au bout de beaucoup d'efforts, etc. Sûrement que chez eux, il n'y avait pas besoin d'efforts, c'était spontané, c'était pathologique en fait.
Alors donc, vous aviez finalement un questionnaire qui était le même, enfin les réponses étaient les mêmes pour ces trois patients.
Tout à fait, très similaires.
Voilà, et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors bon, on les a bien examinés, on a surtout interrogé leur famille, parce que une fois qu'ils étaient rentrés de l'hôpital à leur domicile, ça continuait. Et quand on les a revus en consultation une semaine, un mois ou deux mois après, on était encore plus impressionnés que cet état a été durable, et que dans leur milieu ambiant, leur milieu naturel, leur maison, ça se passait comme ça. Alors, nous raconter la journée de d'un d'entre eux qui était un commissaire de police qui, oui, auparavant était quelqu'un de très autoritaire, de très très entreprenant et toujours toujours dans la prise d'initiative, hein, la prise de décision, qui était devenu, sa femme nous disait, doux comme un agneau. Il ne faisait plus rien. Je suis obligé de tout faire, de tout décider à sa place. Ouais. Avant, il aimait bricoler. Il était à la retraite, mais il aimait bricoler. Il allait s'occuper de son jardin. Là, il ne faisait plus rien. Il fallait tout faire à sa place. Ouais. Donc, une perte totale d'action. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce qu'il fait de sa journée ? Bon, il reste dans son fauteuil. Il regarde la télévision. Si on l'allumait, il ne la réclame pas si on l'allumait pas.
Quand il n'exprime aucune satisfaction à voir un film.
Non, quand on lui éteint la télévision, il ne manifeste pas de rien de particulier. Voilà. Il ne demande pas à manger. Sa femme, qui avait un esprit un peu expérimentaliste, l'a laissé 2 jours sans lui donner à manger pour voir.
Oui.
Ouais. C'était un peu spécial comme attitude. Mais bon. Ça nous a aidé.
Excuse-moi, tu parles de manger, moi je pense à autre chose. Excuse-moi, c'est pas très bon. Il avait besoin d'aller aux toilettes de temps en temps. Ah, alors ça... là, il s'exprimait pour y aller. Il ne pouvait pas rester comme ça.
Oui, bon, c'est quelque chose qu'il pouvait faire.
Ça, c'est quelque
Mais
chose.
Manger, il ne demandait pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que bon, un besoin quand même, une recherche de satisfaction immédiate et fondamentale, qui est l'alimentation. Il ne l'avait plus. Il ne l'avait plus. Alors donc, l'analyse qu'on peut commencer à faire de ce tableau-là, de ce syndrome-là, c'est une sorte de perte du lien entre le désir et l'action. Le désir peut-être est toujours là, on ne le sait pas, puisqu'on n'est pas à sa place, on ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne va pas rechercher par une action la satisfaction qu'il pouvait aller rechercher avant dans les différents domaines qui lui amenaient la satisfaction. Un d'entre eux avait arrêté complètement de fumer. Ouais. Et alors que c'était un gros fumeur, il a manifesté du jour au lendemain plus aucun besoin de demander une cigarette. Voilà donc cette interprétation finalement. On a là un domaine qui est à l'interface entre les émotions et l'action, et on va appeler ça la motivation.
La motivation, oui. Alors action, émotion, puis tout à l'heure tu as dit une troisième chose.
La pensée. Puisqu'il y avait en même temps cette perte de la pensée spontanée qui va nous poser beaucoup de questions sur lesquelles on reviendra après.
Bien sûr, ok.
Adio, adio querida, no quiero la vida, me la amargaste es tú.
Tu as dressé le tableau, je sais pas si on peut dire comme ça, je suis pas spécialiste, clinique de ces gens, qu'est-ce qu'ils ont, on les interroge, voilà, etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est faire des investigations, je suppose.
Eh oui, de savoir. C'est survenu, cet état-là, après une lésion du cerveau. Alors, nous, neurologues, la seule chose qui nous intéresse là-dedans, c'est de dire quelle est la partie du cerveau qui a été touchée, parce qu'elle va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement, y compris sur notre fonctionnement normal à nous.
Bien sûr.
C'est ça
Mais c'est souvent comme
la recherche.
Sur les pathologies qu'on arrive à...
Bien sûr. Ouais. Et en l'occurrence, on a été vraiment surpris, parce que les trois personnes en question avaient toutes les trois la même lésion, au même endroit du cerveau.
Ah oui.
Et une toute petite lésion, très très petite, de l'ordre d'un ongle, de la taille d'un ongle, mais dans les deux hémisphères, dans la profondeur des deux hémisphères, ce qu'on appelle les ganglions de la base. C'est des parties très très profondes des hémisphères, des parties très archaïques aussi, qui sont les mêmes chez l'homme et qui n'ont pas bougé, disons, dans toute l'espèce animale, entre les rongeurs jusqu'à l'homme. Hein. C'est les mêmes structures. Et donc, l'idée, c'est que c'est forcément une fonction très archaïque qui a été touchée là-dedans. Et cette fonction, elle avait été déjà étudiée chez les animaux. Par exemple, un modèle qui, à cette époque-là, était utilisé par les chercheurs en neurosciences, les chercheurs sur l'animal, chez le rongeur, chez le rat, c'est ce qu'on appelle l'autostimulation. Les rats avaient une petite électrode à l'intérieur de leur cerveau, précisément plantée dans cette région-là, cette même région, ce même noyau. Et ils avaient la possibilité d'actionner une manette, une sorte de pédale, quand ils voulaient. Et Ce qu'on observait, ce que observaient les chercheurs, c'est que les rats, à partir du moment où on leur donnait cette possibilité-là, allaient passer leur journée à appuyer sur la pédale, de façon frénétique, en ignorant tout ce qui pouvait se passer d'autre. Ils ne mangeaient plus, ils ne demandaient plus, ils ne copulaient plus, et ils en mouraient au bout de quelques jours d'épuisement. Hein. Et très vite, ça a été considéré comme un modèle d'accoutumance, d'addiction.
Hein. Une addiction, vraiment.
Voilà, une sorte d'addiction. Et c'est à partir de là qu'on a pensé que ces structures-là constituer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Un circuit dans le cerveau qui nous donne la sensation de récompense. En tout cas, lorsque on
parce qu'on fait cette action.
Oui, c'est-à-dire c'est une sorte d'interface entre le plaisir et l'action qui va rechercher le plaisir. Voilà. Et chez l'animal, c'est comme chez l'homme. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a qui est assez troublant.
Oui, troublant.
C'est assez troublant parce que on pourrait penser que c'est proprement humain. Hein. C'est quelque chose de très noble, hein, la motivation, l'initiative, etc. C'est quelque chose qui pourrait pas. On a longtemps pensé d'ailleurs que c'était dans les parties les plus nobles du cerveau, que c'était le lobe frontal qui servait à ça. Et maintenant, on sait que non. C'est au fond du cerveau humain, et c'est dans les profondeurs de l'échelle animale que ça existe.
Est-ce que ce ne serait pas ça l'origine de l'évolution de l'homme, finalement, cette volonté-là
Il y a des grands chercheurs qui ont proposé ça, un certain MacLean, a montré qui a fait l'hypothèse qu'on avait dans notre cerveau, finalement, un cerveau de mammifères primitifs, et à l'intérieur de ce cerveau de mammifères primitifs, un cerveau de reptile. Hein, et qu'on était une sorte de poupée russe. Notre cerveau est une sorte de poupée russe faite de trois parties d'origine de plus en plus profonde. Hein.
Oui.
Et bon, là, on serait à l'intermédiaire entre le reptilien et le paléo-mammifère, si vous voulez. Mmh. Ces parties-là qui sont vraiment très, très archaïques dans notre cerveau. Mmh. Et effectivement, la fonction qui est sous-tendue par ça, c'est une fonction qui va servir à deux choses principales, hein, pour l'espèce animale, n'importe quelle espèce, c'est la préservation de l'espèce, c'est-à-dire se nourrir et copuler,
hein,
c'est-à-dire aller chercher le plaisir, finalement.
Oui. Hein,
et puis la défense contre les agressions et contre les dangers. Hein, finalement, on n'est que peu de choses, finalement. Fondamentalement, on n'est pas très différent de ces animaux.
Des animaux, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Ça.
Non.
La structure, c'est... On a parlé de cette fonction-là. Quand on met une électrode, on crée une motivation, une addiction, plus qu'une motivation. Hein, puisque,
oui. Voilà. C'est une pathologie de la motivation. L'addiction est une pathologie de la motivation.
Voilà. Et alors, dans ces structures profondes, si on compare une structure animale et une structure humaine, on trouve les mêmes choses ?
À peu près les mêmes choses. C'est les mêmes circuits, les mêmes zones, les mêmes connexions. Hein. Mais évidemment, la différence, c'est que nous, on a un cortex cérébral qui est beaucoup plus développé.
Oui.
Et donc, les connexions entre ces structures et le cortex cérébral sont beaucoup plus importantes.
Bien sûr.
Mais,
c'est ce qui manque donc aux animaux. Quoi. Voilà.
Voilà, c'est ce qui fait la différence.
D'accord. Bon, alors, cette expérience-là, vous faites l'expérience du rat, et ça mène à quoi ?
Ben, ça a amené à se poser les questions sur, à nouveau, sur ce syndrome atymormique. Et d'abord, on l'a nommé.
Voilà.
Alors, pourquoi on l'a nommé atymormique ? C'est compliqué comme mot. En fait, c'est fait de deux racines grecques. Thumos, qui veut dire l'affect, et ormé, qui veut dire l'élan vital. Et ça faisait référence à ce que des psychiatres du début du XXe siècle avaient constaté chez des patients schizophrènes.
Ah oui.
qui avait perdu à la fois l'affect et la capacité à agir. Et c'est par analogie avec ces patients-là qu'on s'est dit, mais ça ressemble beaucoup. Nos patients ne sont pas des patients psychiatriques, ce ne sont pas des schizophrènes. Ils ont eu une petite lésion du cerveau. Ils étaient juste tout à fait normaux sur le plan psychologique jusqu'alors. Mais finalement, ce trouble-là ressemble beaucoup à ce qu'ont certains schizophrènes. Or, les psychiatres en question, dans les années 1910-1920, avaient proposé ce terme atymormie, hein, pour qualifier certains schizophrènes qui avaient précisément cette restriction de l'action et cette apparente indifférence affective. Mmh. Et il proposait, c'était vraiment prémonitoire, je veux dire, c'est précurseur, il proposait sans en avoir aucune preuve à l'époque, vous imaginez en 1910, mmh. que c'était des noyaux profonds du cerveau qui dysfonctionnaient chez les schizophrènes. Oui. C'était une belle intuition. Voilà. Donc on a repris ce terme et on a essayé de comprendre en quoi ces structures-là qui étaient détruites, ces ganglions de la base, pouvaient être utiles dans leur vie avant la lésion. Hein. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui a changé à cause de cette lésion ? Eh bien, ce qui a changé, c'est typiquement l'incapacité à transformer du désir en action. Et donc, c'est depuis lors, on pense qu'il s'agit bel et bien d'un modèle humain de pathologie de la motivation. Mmh. Mais il y en a d'autres.
Alors, moi, je suis allé chercher parce que je connaissais pas du tout ce mot. Et quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, tu me l'as fait découvrir. Et je suis allé sur Internet chercher ça. Et j'ai découvert que à cette époque-là, tu avais écrit un livre, je crois, avec Monsieur Poncé, mmh. et sur justement ce sujet-là. Entre C'était autres, l'objet oui. de tes recherches. Alors.
Oui, on s'intéressait beaucoup à ça à l'époque. Ah, oui. Oui. Mmh. Alors. Depuis lors, on a quand même évolué sur ça. Bon, déjà, ces structures-là, ce circuit de la récompense, il a été étudié par d'autres et dans d'autres circonstances grâce à l'apparition de l'imagerie fonctionnelle, ces fameuses oui. IRM qu'on n'avait mmh. pas à l'époque.
Hein. Oui, bien sûr.
Et depuis, il y a eu beaucoup de travaux et des collègues actuels continuent à travailler sur cette thématique de la motivation grâce à l'IRM fonctionnelle.
Juste une petite question, peut-être elle n'a pas beaucoup d'intérêt, tu me le diras. À cette époque, justement, où vous avez travaillé, vous, sur ce sujet, il n'y avait pas l'IRM fonctionnel.
Non.
Comment vous avez détecté
ce... C'était au scanner.
Au scanner.
À l'époque, okay. c'était au scanner. Oui. Mm-hmm. C'est le début de l'IRM, les années mm-hmm. 85. Voilà, oui. Donc, voilà, ce circuit-là, ce circuit de la motivation, qu'on appelle aussi circuit de la récompense, il intéresse des tas de gens actuellement. Il y a plein de monde qui travaillent. Alors, déjà, tout ce qu'on appelle l'addictologie. Hein, mm-hmm. On disait que ces rats étaient comme s'ils étaient toxicomanes. C'était oui. la même chose. Effectivement, quand on fait maintenant des IRM fonctionnels à des toxicomanes, on mm-hmm. s'aperçoit qu'il y a une dysfonction de ce circuit. S'active pas assez dans certaines circonstances et trop dans d'autres circonstances.
Ce dysfonctionnement, est-ce qu'on est capable d'agir après ?
Disons qu'on a des modèles chimiques, parce oui. qu'on sait que ces circuits-là fonctionnent avec une substance qu'on appelle la dopamine,
oui. hein,
dont on sait bien comment elle fonctionne d'ailleurs, et on a compris comment les substances hallucinogènes, et en particulier la cocaïne, hein, était capable de se substituer à la dopamine sur les récepteurs dans le cerveau. C'est un petit peu compliqué,
mais
c'est des travaux de chimistes, si vous voulez, qui ont permis d'avancer vraiment sur la compréhension. Oui, alors la réponse à ta question, c'est oui, ça a beaucoup servi à mieux traiter les addictions, oui.
Les traiter, mais pas les supprimer quand même.
Ah bon, si on peut améliorer les choses, c'est déjà bien.
Oui, c'est sûr.
Je peux passer à l'étape suivante.
Oui,
si vous voulez.
Passe à l'étape suivante.
Alors, comme tu sais, moi je m'intéresse actuellement beaucoup au problème d'apprentissage chez l'enfant.
Hein. Oui.
Et parmi les troubles d'apprentissage chez l'enfant, il y en a un qui nous intrigue beaucoup, c'est les enfants hyperactifs. Hyperactivité. Et quand on y réfléchit, chaque fois que je vois un enfant hyperactif, je me rappelle ces personnes adultes que je voyais il y a 30 ans,
oui.
Atymormiques, et je me dis, l'hyperactif, c'est exactement le contraire de cela, le contraire de ces atymormiques. Hein. Ils ont les trois symptômes, mais à l'envers.
À l'envers, hein. Oui.
Au lieu d'être apathiques, ils sont hyperactifs, c'est l'action, une pathologie de l'action dans le sens opposé. Au lieu d'être indifférents, ils sont hypersensibles et ils sont hyper réactifs.
Hein. Oui.
Et au lieu d'avoir un vide mental, ils ont une hyperactivité de la pensée aussi. Hein. Ils sont bombardés de toutes les sensations et de toutes les pensées qui les gênent dans leur activité quotidienne, dans leurs études surtout et dans leur scolarité. Voilà.
Ah, c'est très étrange ça. Oui.
Et donc on s'est posé la question, est-ce que... je me suis posé la question finalement. Mmh. Et finalement je suis allé chercher un peu dans la littérature et effectivement, quand on regarde ce que montrent depuis quelques années les chercheurs avec l'IRM fonctionnel, la même, mmh. mais chez les enfants hyperactifs, c'est exactement le même circuit qui dysfonctionne, encore une fois.
Il n'y a pas de lésion, là.
Là, il n'y a pas de lésion. Il dysfonctionne. Il dysfonctionne de manière spontanée. Mmh. Et donc là, moi, j'ai été très satisfait de voir ça, parce que
ben oui.
L'intuition qu'on avait, de dire, mais est-ce que ce n'est pas le contraire de ce qu'on avait vu il y a 30 ans ? Mmh. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, on a la preuve maintenant, grâce à l'IRM fonctionnel fait chez des enfants hyperactifs, qu'il y a chez eux une dysfonction du système de la récompense.
Et est-ce que ces hyperactifs-là, est-ce que ça a toujours existé, ou est-ce qu'on peut penser que c'est une réaction de l'environnement, de la vie qu'on mène, etc., etc.
Non, il y a...
C'est vraiment structurel.
C'est structurel, c'est génétique, on le sait, en grande partie génétique. Oui. Mais des facteurs d'environnement peuvent le causer aussi, hein, en plus.
Oui.
Mmh. Ça vient se rajouter aux génétiques, si vous voulez. Mmh. Comme s'il y a une prédisposition génétique et des situations d'environnement, surtout dans la petite enfance, voire même pendant la grossesse, ça peut prédisposer à ça.
Alors, cette constatation que tu as faite, ce rapprochement, etc., est-ce que ça mène à des idées nouvelles sur l'apprentissage ?
Oui, enfin, en tout cas, c'est sur les difficultés que rencontrent les hyperactifs.
Oui.
Excusez-moi, je suis un petit peu à faune ce soir. Et en particulier, quelque chose qui avait été souligné chez eux, comme une tendance très nette à ce qu'on appelle l'aversion pour le délai. C'est un terme un peu compliqué. C'est-à-dire que si on prend 30 hyperactifs, 30 enfants de même âge, que 30 autres enfants non hyperactifs, exactement de même âge, de même milieu socio-économique, etc., et qu'on leur pose le petit problème suivant, on leur fait la proposition suivante, on leur dit, voilà, tu as à choisir entre 3 bonbons, maintenant, et 10 bonbons dans une heure. Choisis. Et si on compare le comportement entre les deux groupes, il est radicalement différent. Radicalement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il diffère complètement sur ce point-là.
Alors comment ?
Ben, évidemment, l'hyperactif va préférer la récompense petite et immédiate.
Oui.
Et le non-hyperactif, en général, de façon significativement différente, va préférer une récompense plus importante, mais plus tardive. Donc c'est ça, l'aversion pour le délai. Mmh. Qui est caractéristique de l'enfant hyperactif. Et ça, si on y réfléchit, c'est vraiment une dysfonction du système de la récompense. C'est la récompense, on ne peut pas la faire attendre. Voilà. Ils ne peuvent plus faire attendre la récompense.
Ça rentre dans l'hyperactivité, c'est tout de suite.
Voilà. C'est la définition, c'est une des définitions de l'hyperactivité, et c'est un fait expérimental qui est à 100%, quoi. Ça marche à tous les coups.
Mmh. Tu as employé un mot tout à l'heure, la timormie, un mot un peu barbare, mais tu nous as expliqué ce que ça voulait dire. Et lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'avais dit qu'une équipe parisienne avait donné pour ces mêmes symptômes une autre définition, enfin un autre titre.
Oui, il y a eu à cette époque-là un débat qui dépassait les frontières habituelles de la neurologie pour aller clairement vers la philosophie. Et ce débat auquel on a participé, et on n'a pas tranché, personne n'a tranché, hein, mais il opposait finalement une équipe parisienne qui avait proposé un autre terme pour le même syndrome. Il parlait de perte de l'auto-activation psychique. Et derrière cette différence de terminologie, il y avait c'est pas une querelle de clochers, il y avait une vraie différence de point de vue sur l'être humain.
Mmh.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à cette époque-là, m'avait fasciné. En même temps, j'étais trop jeune pour pouvoir entrer dans le débat, vraiment.
Hein. Alors, cette différence
Vous rappelez le tableau de ces patients, hein, c'est-à-dire ils peuvent tout faire mais ils ne font rien. Sur stimulation externe, ils peuvent agir. Spontanément, ils n'agissent pas, ils sont inactifs, apathiques et incapables d'action. Et pour l'équipe en question, qui parlait de perte d'auto-activation, mettez l'accent sur ce contraste entre ce qui vient de l'extérieur est possible, de l'intérieur rien ne peut venir. Et donc l'idée, c'était qu'il y avait des structures dans le cerveau qui étaient intactes mais qui n'étaient plus activées. Et c'est donc dire que finalement le plus important était là, mais que quelque chose de l'ordre de la stimulation ne fonctionnait plus. Alors que dans notre conception, à travers le terme d'atimormi, on mettait l'accent sur le fait que la pathologie consistait en destruction d'une structure très archaïque, animale, qui était fondamentale pour l'action, pour la fonction en question. Et vous voyez l'opposition de sur un même tableau neurologique, finalement, de deux points de vue. L'un qui va dire, en fait, ce qui est perturbé, c'est le cortex frontal, c'est-à-dire la couronne de l'évolution, oui. la partie la plus la complexe, plus noble, la plus humaine, oui. la plus noble oui. de notre cerveau. Hein. Et alors que nous, ce qu'on disait, ce qui est perturbé, c'est quelque chose au contraire de très basique, de très archaïque, de très animal qu'on a en nous. Hein. Et finalement, c'est toute une conception de l'homme qui s'oppose là, deux conceptions. Oui. L'une qui en fait vraiment la couronne de la création, hein, et l'autre qui en fait finalement une continuation de l'évolution. Et je pense que, bon, après, je parle des théologiens pourraient s'emparer de ça aussi. Hein. Je pense que ça pourrait être intéressant de discuter aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec des théologiens de ça. Mais déjà, des philosophes ont réagi à ce débat. Et il y a eu quelques articles dans la littérature, dans des journaux philosophiques, sur le débat entre perte d'auto-activation et atimormi. Comme si ces patients-là était un modèle de compréhension de l'esprit humain, au-delà d'un simple syndrome neurologique.
Oui, mais pourtant l'expérience, l'expérimentation, elle dit bien ce qu'elle dit. Hein, quand on excite, devant ça, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Oui, mais l'autre hypothèse tient la route aussi, de dire que la partie pertinente est une partie qui n'est plus activée.
Donc, oui.
qui ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas activée, elle est inutilisée. Hein. Vous voyez, c'est la même chose, mais vue sous un autre angle. En fait.
Je comprends. Ouais. Et oui, c'est deux conceptions de l'homme qui s'affrontent un peu là.
Un petit peu, oui.
Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question là.
Bon, on peut en dire beaucoup encore, mais oui. moi, il se trouve que mon extinction de voix qui s'aggrave au fur et à mesure de la soirée fait que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que maintenant.
On va arrêter
et
là.
Je m'en excuse.
Mais je veux que tu puisses continuer à parler un peu, sinon tu vas être épuisé. Merci, merci mille fois.
C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.